Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Le samedi 29 avril, l'amicale sportive Saint-Sauveur fêtait ses 103 ans. Une journée 100% foot avec entre autres la présence de l'ancien attaché de presse de l'équipe de France venu dédicacer son ouvrage « La vie en bleu ». Monsieur Philippe Tournon, bonjour.
Bonjour.
Avant d'occuper cette fonction d'attaché de presse, vous avez été journaliste, vous avez travaillé au sein du quotidien L'Équipe pendant 17 ans.
Dans une famille où le sport n'était pas du tout à l'honneur, une fratrie de 6 où personne n'a jamais fait vraiment de sport en dehors de l'école. Je ne sais pas encore pourquoi. À 14 ans, je me suis pris de passion pour le Stade de Reims, qui était la grande équipe de l'époque, avec Coppa, Fontaine, Piantoni, Colonna, Jonquet. Et ce virus m'a pas quitté. Et j'avais pas 16 ans. Et quand mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» J'ai dit « Papa, je vais être journaliste à l'équipe dans le football. » Dis, mon petit garçon, c'est pas un métier sérieux, passe ton bac, fais des études, après tu feras ce que tu voudras. C'est encore une époque où on écoutait à peu près les parents, donc j'ai passé mon bac, j'ai fait semblant de commencer une licence de droit que je n'ai bien sûr pas menée à terme. Et à un moment donné, j'ai dit je pars au service militaire et après je fonce. Et j'ai eu une chance que je qualifie encore d'insolente, j'avais pas de relation, je connaissais personne dans le métier, donc j'ai pris ma plus belle plume, j'ai fait une vingtaine de lettres au rédacteur en chef sport de l'Aurore, du Parisien, de l'équipe France Football, l'Humanité. Et j'ai eu la bonne fortune de recevoir une réponse de Jacques Ferrand, le patron du football à l'équipe France Football. Et il cherchait un pigiste le dimanche soir pour faire des classements, des statistiques, comme dans toutes les rédactions, il y a des petites mains, comme on les appelle. Et j'ai commencé comme ça et ça s'est déroulé très bien. 6 mois après, j'étais embauché, reporter, grand reporter, rédacteur en chef de la rubrique football, etc. Voilà. Pendant 17 ans, j'ai fait ça et c'est le moment où Fernand Sastre, président de la fédération, et Michel Hidalgo, qui entraînait l'équipe de France, sont venus me débaucher, si j'ose dire, en me demandant si je voulais intégrer la fédération. Bon, Michel Hidalgo, c'était pour créer au sein de l'équipe de France le poste de chef de presse qui n'existait pas encore. Il y avait l'Euro 84 qu'on allait organiser et il fallait un chef de presse. Et il y avait un service de presse à créer à la fédération et un hebdomadaire fédéral vieillissant qu'il fallait redynamiser. Donc voilà, j'ai accepté cette proposition et ça m'a valu de faire 22 ans à la fédération dans un premier temps comme directeur du service de presse et chef de presse de l'équipe de France. Je croyais prendre ma retraite en 2006, quand en 2010, Laurent Blanc, qui reprenait l'équipe de France après le triste épisode sud-africain, m'a dit « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien le métier parce que les relations avec les médias sont un peu détériorées du temps de notre ami Raymond Domenech. Donc, est-ce que tu veux bien reprendre un peu de service ?» J'ai dit, oui, pas de souci. Et puis Didier est arrivé, il m'a dit, en attendant que je trouve un chef de presse, tu veux bien assurer pendant 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2014 ? Je lui ai dit, oui. Puis après, il me dit, écoute, il y a l'Euro 2016 en France, tu vas. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Puis après, il me dit, écoute, moi, mon contrat s'arrête en 2018, on va aller au bout ensemble. Je lui ai dit, allez, on y va. Voilà, en 2018, j'ai terminé sur le sacre de Moscou, une fin magnifique et une belle carrière.
Parce que vous disiez à l'époque que les journalistes ont le faire savoir et les footballeurs ont le savoir-faire. Donc vous étiez un petit peu la passerelle.
Oui, exactement. C'est ce que j'expliquais à tous les jeunes joueurs qui arrivaient en équipe de France et qui avaient une appréhension souvent injustifiée pour les contacts avec les médias. Alors, il fallait que je leur explique que ça faisait partie de leur métier et qu'ils étaient au cœur et les seuls acteurs bénéficiaires avec des contrats souvent mirobolants, ils sont largement au-dessus de la moyenne des revenus nationaux. Je leur dis, c'est vous les acteurs de cet immense business qui génère des millions, des centaines de millions, et vous en êtes les seuls bénéficiaires. Si vous ne prenez pas votre part, si vous ne montrez pas devant les caméras avec les survêtements, avec Orange, EDL, Volkswagen et compagnie, vous ne faites pas tourner la boutique. Donc ça fait partie de votre métier. Et c'est là que j'avais ma vieille formule, vous avez le savoir-faire, c'est votre talent, c'est parce que vous le méritez, mais pour le mériter, pour le justifier, vous devez rencontrer le faire-savoir des médias. si votre savoir-faire ne rencontre pas la caisse de résonance du faire savoir des médias et principalement de l'audiovisuel aujourd'hui, eh bien vous ne tenez pas votre rôle et vous mettez en péril un système dont vous êtes, encore une fois, à peu près les seuls bénéficiaires. Parce que je leur dis toujours, personne ne gagne de l'argent dans le football par les joueurs et leurs agents. J'ai connu beaucoup de présidents qui, chaque exercice, sortent de leur poche pour combler les petits ou les gros déficits. Mais j'en ai connu même à une époque, hélas, qui se sont suicidés ou qui ont perdu beaucoup d'argent personnellement. Mais en revanche, l'argent, il va aux joueurs, aujourd'hui à leurs agents. Les médias d'un côté, les joueurs et le sélectionneur de l'autre, c'est deux populations qui ne s'aiment pas d'un amour naturel. Parce que évidemment, les médias ont le rôle de raconter, de plus en plus de juger. Ils mettent des notes, donc ils crispent un peu les joueurs qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts pour aller vers eux, aller au contact des médias. Et j'étais là pour l'organiser. Je lui dis, c'est pas tous les jours. Tu vas pas y passer une heure. On va organiser ça pour que tu passes dans une semaine. Tu vas y aller deux fois, 20 minutes. Il y aura une vingtaine de télévisions, une dizaine de radios. Tu répondras à des questions pendant 20 minutes et tu auras fait le boulot. Voilà, c'était ma mission. Ramener la coupe à la maison.
Allez les bleus, allez. Et pendant cette longue mission, il y a eu quand même 7 Coupes du Monde, 337 matchs et 9 sélectionneurs différents.
Oui, ben effectivement, j'ai commencé avec Michel Hidalgo, puis Henri Michel, puis Michel Platini, et puis Gérard Rouillet, puis Aimé Jacquet, puis Roger Lemaire, puis Jacques Santini. Et quand Raymond Domenech est arrivé en 2004, il a changé tout le staff. Il m'avait dit, Raymond, à l'époque, quand il m'avait dit qu'il ne me gardait pas plus que les autres, il m'a dit, c'est devenu un peu le Club Med, votre affaire, quoi. Peut-être que ça commençait à ronronner un peu, et sans doute, ce grand coup de balai était-il nécessaire. Donc, j'ai continué encore 2 ans en tant que directeur du service de presse, et donc, en 2006, j'ai pris ma retraite. Enfin, j'ai cru prendre ma retraite, parce qu'après, vous connaissez l'histoire.
Dans cet ouvrage, qui je rappelle s'appelle 50 ans de secrets dans les coulisses de l'équipe de France, vous racontez, M. Tournon, principalement des anecdotes.
Oui, forcément, 337 sélections. Enfin, c'est pas les miennes, mais enfin bon, je les ai vécues sur le banc de l'équipe de France. J'ai raconté quelques centaines d'anecdotes, celles que je pouvais raconter, parce que c'était mon appréhension, d'ailleurs, avant d'accepter les propositions des éditions Albin Michel. J'en avais refusé beaucoup avant. Je me disais, mais si c'est pour raconter ce que tout le monde a déjà raconté, je vois pas l'intérêt. D'un autre côté, je ne peux pas, c'est une question de déontologie, de morale personnelle, trahir la confiance de tous les sélectionneurs, les présidents de fédération qui m'ont admis dans le secret de leur délibération. Et c'est vrai que j'avais de quoi ternir pas mal de réputation ou livrer pas des secrets d'État, faut pas exagérer, c'est que du football, mais enfin bon. Tout n'est pas à dire. Enfin bon, c'est ma conception, même si aujourd'hui, les journalistes, et notamment d'investigation, ont tendance à gratter pour tout savoir, tout connaître, des tenants, des aboutissants. Donc, il faut montrer ce qu'est la vie d'une équipe. Et le documentaire le fait par Stéphane Meunier après 98, Les yeux dans les bleus, de ce point de vue-là, était utile, et notamment a rétabli un garçon comme Aimé Jacquet, qui avait été durement critiqué en amont, notamment par mon ancien journal, L'Équipe. Ça avait été difficile à vivre pour moi. Et donc, ce documentaire a quand même rétabli la personnalité d'Aimé Jacquet, a montré comment... Même si vrai, c'était pas un communicant hors norme, c'était pas un tribun, il captivait pas les salles. Mais quand il était dans le vestiaire avec ses joueurs, il fallait voir comment les joueurs le regardaient. Il avait une forme d'authenticité qui faisait que le contact s'établissait naturellement et les joueurs se seraient fait hacher menu sur le terrain pour le coach. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité d'un coach moderne. C'est pas de savoir à quelle heure il faut se coucher, ce qu'il faut manger. L'âme, le cœur de cible du coach, c'est de tenir son vestiaire, d'avoir la confiance pleine et entière de ses joueurs pour les transcender et avoir ce petit plus. Un bon entraîneur, s'il a des bourrins, il gagnera jamais grand-chose. Mais une bonne équipe qui a un niveau de compétence plus 8, l'entraîneur, s'il est très bon, il peut le faire plus 9, plus 10. Et c'est là que ça va faire la différence. C'est ce qu'a fait Aimé Jacquet. C'est ce qui se passe avec Didier Deschamps aujourd'hui, qui était pour moi le manager moderne par excellence. Il a l'œil à tout, il fait attention. Il sait quand il doit taper dans le dos du joueur, le prendre à part pour le cajoler un petit peu. Et puis quand il doit pousser un coup de gueule. C'est tout cet équilibre subtil entre je sors le bâton ou je sors la carotte.
Avec cet ouvrage, vous avez entamé une tournée depuis 2 ans dans de nombreux clubs en France.
C'est plus complexe que ça. C'est le bouquin a vécu sa vie en librairie, c'est bien vendu. On a dû en vendre 20 000 d'exemplaires. Et puis, c'est mon ami Eric Fabre que je connais depuis, le créateur des Black Stars, une superbe équipe d'anciens internationaux de nos îles ou de d'Afrique, et qui fait des matchs amicaux. Mais il m'a dit, quand il a su que j'avais une réplique de la Coupe du Monde, il me dit, mais attends, cette Coupe du Monde, elle fait rêver des milliers de gamins, il faut que tu l'amènes. Et je me suis rappelé ce qu'Aimé Jacquet avait dit le soir de la victoire de 98, après qu'il lui s'est dit sa célèbre phrase, je ne pardonnerai jamais, en pensant aux amis de l'équipe. Et il a dit, cette Coupe de France, elle est la coupe de tous les footballeurs en France, de tous les éducateurs, de tous les joueurs. Et voilà, et moi je sais que dans mon salon, j'ai un objet qui fait fantasmer des tas de gamins, de mamans, de grands-parents. Et quand Eric m'a dit, mais tu viens, en même temps tu dédicaces ton bouquin, tu passes une journée avec nous, c'est sympa. Donc j'ai intégré un peu ce groupe des Black Stars, et c'est vraiment un bain de jouvence, parce qu'on rencontre des gens du vrai football, comme aujourd'hui à Saint-Sauveur, là, j'ai déjà rencontré des gens admirables, des mamans de joueurs, des éducateurs, des dirigeants, les bénévoles, sans qui le football n'existerait pas. Les bénévoles en France, en football, c'est 400 000 personnes qui sont essentiel, on le dit jamais assez. Et ben c'est un retour à la base et qui me ravit par les rencontres que je peux faire, les gens que je peux croiser. Et en plus, les Black Stars, c'est une équipe qui a un jeu exceptionnel. Il y a Mara Simba, il y a des joueurs qui ont un talent monumental. En plus, on voit un bon match de football pour terminer la journée. Donc c'est tout bénéfice. Le retraité que je suis connaît les nouveaux. Voiture de jouvence avec cette aventure des Black Stars.
M. Tournon, quelle est la différence entre votre réplique que vous possédez et la vraie ?
Et la vraie est en or massif. Elle pèse 6,7 kg et elle dort dans un coffre d'une banque à Zurich, siège de la FIFA. Et celle que j'ai est exactement, rigoureusement la même au point de vue taille, au point de vue poids, au point de vue modèle, représentation, etc. Évidemment, tous les gens posent la même question, est-ce que c'est la vraie ? Elle ressemble à la vraie, je te mets au défi de voir la vraie et la fausse. Alors je sais, je vous donne le secret, c'est que la mienne, sous le socle, il y a une espèce de feutrine verte, et la vraie, le socle, il y a gravé le nom des vainqueurs depuis 1974. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire
les deux pieds, Ousmane Dembélé. Monsieur Tournon, dernière question. Le football, ça vous préoccupe, mais il y a aussi l'avenir de la planète qui vous inquiète également.
Oui, bien sûr. À l'âge où j'arrive, j'aurai 80 ans cet été. Mon pays m'échappe un peu. Il y a une démocratie de la rue qui semble vouloir s'opposer à la démocratie des urnes. Je ne sais pas qui a raison, c'est vrai, bon, faut écouter le peuple. D'un autre côté, des gens ont été élus, pensent juste et nécessaire de faire un certain nombre de réformes. Bon, je ne veux pas avoir des propos de vieux combattants ou de vieux cons tout court. Donc je fais confiance à la nature humaine, mais elle n'est pas toujours parfaite, hein, loin de là. Et voilà, donc j'aimerais bien voir les choses s'améliorer avant de mourir.
Le football, ça reste quand même néanmoins très important. Vous suivez tous les championnats, vous avez suivi forcément la Coupe du Monde du Qatar.
Je ne suis pas allé au Qatar malgré plusieurs invitations, par conviction personnelle. C'est une Coupe du Monde un peu frelatée qui a été achetée. Enfin, l'organisation a été achetée. C'est un pays qui ne recueille pas mon plein assentiment en termes de droits de l'homme, des conditions de la femme, etc. Donc j'avais décidé que je n'irais pas. Mais je suis toujours l'actualité de l'équipe de France, bien sûr, de très très près. En revanche, l'actualité du championnat, beaucoup moins. Là aussi, l'évolution du football avec l'apparition des pays souverains, pays du Golfe notamment, ou les fonds de pension américains ou japonais qui viennent s'investir. Le club perd un peu ou beaucoup son identité. Un club, c'est une âme, ça s'incarne dans Roger Rocher à Saint-Étienne, Borrelli au Paris Saint-Germain, Gervais Martel à Lens. Il faut une culture, il faut savoir d'où on vient et connaître ceux qui ont bâti les clubs. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que tout ça, un milliardaire arrive, allez, je mets 100 millions sur la table. Pour faire quoi? Avec qui? Ce qui s'est passé avant? Peut-être que c'est une évolution normale. Là encore, il faut attendre et voir.
C'est son nom. Merci beaucoup pour cet entretien.
Avec plaisir.
La seconde partie du reportage consacrée aux 103 ans de l'Amicale Sportive Saint-Sauveur, le club de football de la commune, est terminée. Nous venons d'écouter l'interview de Philippe Tournon, l'ancien attaché de presse de l'équipe de France, qui était venu dédicacer son ouvrage « La vie en bleu ».
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.